Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous allons faire cette semaine exceptionnellement une journée hommage. Hommage à nos poètes disparus. Vous savez que les poètes en définitive ne disparaissent vraiment que lorsqu'on les oublie. Et donc on ne va pas les oublier.
Non.
Et pour ne pas les oublier, j'ai à côté de moi aujourd'hui Camille. Camille, merci beaucoup.
Eh bien, avec plaisir.
Alors, Camille, nous allons nous livrer un exercice qui est le suivant. Nous allons rendre hommage à un poète qui s'appelle Jean-Pierre Medge. Jean-Pierre Medge a été le poète qui a accompagné le mouvement qui s'est appelé Escala Sud. Et ce mouvement Escala Sud, c'est dans les années 90, jusqu'au début, donc la fin des années 90, il a regroupé, et ça a été unique en France, il a regroupé tous les poètes du sud de la France, sous l'impulsion de Yverté, qui était médecin à Serre de Luchon, donc un petit village à côté de Luchon, dans les Pyrénées, Henri Hurtubise, Michel Cozem, qui en a été le leader de ce mouvement, Michel Cozem, et qui ont réussi donc à fédérer l'ensemble des créateurs de tout le sud de la France. C'était une vieille idée de Michel Cozem, qui était très attaché à notre Occitanie et qui voulait que l'on fasse entendre une voix particulière, qui était la voix des poètes du sud, car cette voix, pour lui, n'était pas la même que celle des poètes de Paris, du Nord, etc., des autres, même de l'Ouest, etc. Hein. Voilà, une voix qui était la voix originale de notre Sud et de notre Occitanie. Et ce mouvement, donc, se réunissait à Escaladieu. Escaladieu, c'est dans les Hautes-Pyrénées, c'est du côté de Tarbes, dans la montagne, c'était une abbaye, et une très large abbaye, et cette abbaye a été transformée, avec ce mouvement et d'autres mouvements, elle a été transformée en centre culturel. Voilà. Et donc nous avions la chance, dans les années 90, de pouvoir aller à cette abbaye de l'Escaladieu, dans un décor qui était un décor absolument paradisiaque, en tout cas, qui invitait beaucoup au recueillement, à la méditation, évidemment, et à la création, donc, hein, puisque la méditation doit déboucher sur une réflexion, et donc sur une création. Et donc ces poètes venaient, ils venaient de partout, et ils se réunissaient là un week-end. On y dormait, hein, il y avait les chambres qui étaient les anciennes cellules des moines, etc. Et celui qui a fait le compte-rendu de l'ensemble donc de ces réunions, de tout ce qui s'est passé pendant ces années, c'est un poète qui s'appelle Jean-Pierre Medge. Jean-Pierre Medge, qui a publié pas mal de recueils dont nous reparlerons, Jean-Pierre Medge a souffert de l'explosion d'AZF en 2001. Il habitait dans le faubourg de Toulouse, qui était très près de l'avenue de Muret, dans la continuité de l'avenue Muret, je ne retrouve plus le nom maintenant, donc près dans ce secteur qui a été le premier touché par l'explosion d'AZF. Il était dans sa chambre au moment de l'explosion, puisqu'il était professeur de son métier, et il enseignait, d'abord il avait enseigné au lycée international de Blagnac, et ensuite, il enseignait par correspondance. Voilà, déjà. Hein,
avant l'heure.
Avant l'heure. Voilà. Et il était donc dans son lit à cette époque-là, à ce moment-là, de l'explosion d'AZF, donc le 11 septembre 2001, quand le plafond, au sens exact du terme, lui est tombé sur la tête. Voilà. Il en a réchappé. Il a été blessé, bien sûr. Il en a réchappé, mais son logement a été détruit. L'émotion qui en a résulté l'a quand même beaucoup marqué. Il a décidé d'aller vivre en banlieue, dans une ferme, dans une petite petite maison de village. Et peu de temps après, il est décédé. Alors, il s'agit de Jean-Pierre Metsch. Et aujourd'hui, nous allons lui rendre hommage. Nous pensons à sa fille qui sera très heureuse de voir qu'on a rendu hommage à son père, sa fille qui est très intéressée par la poésie contemporaine, qui la lit, etc., que je vois souvent dans les soirées de poésie, qui me parle de son père. Donc son père est toujours là, et nous allons lire des poèmes de Jean-Pierre Metsch. Et Jean-Pierre Metsch, il était attaché beaucoup à l'Occitanie, il parlait l'occitan, et il a écrit un occitan, donc on va lire dans les deux langues, la langue hoc, donc, avec Camille, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté cette mission, et puis en français. Voilà. J'ajouterai que c'était un ami vraiment assez proche, et que souvent, il venait me prendre entre midi et 2 heures. Je travaillais à l'époque rue des Arts, au conseil de prud'homme, qui avait son siège à ce moment-là dans cette rue. Il venait me prendre en voiture, et il m'amenait à l'université, qui n'était pas encore l'université dite Jean Jaurès, mais l'université du Mirail, pour les interventions, les animations de poésie que pouvait donc se produire à cette université. Voilà, pour dire que c'était vraiment quelqu'un qui était très, très amical et surtout très intéressé par l'autre, très généreux. La grande générosité de Jean-Pierre Metsch. Alors nous allons commencer par ce recueil, dont Jean-Pierre Metsch, ça s'appelle Les Greniers du Silence. Alors ça a été publié dans une revue qui s'appelait la revue Résu de Résurrection, de Cussablanc, c'est le nom du directeur de cette revue, qui faisait bien entendu partie de l'Escala Sud, de ce mouvement de l'Escala Sud, et qui, avec sa femme, ont tenu pendant des années, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années, je ne saurais le dire maintenant sans vraiment regarder, ils ont tenu cette revue de poésie qui avait à l'époque un gros impact. Alors là, on est, je ne sais plus en quelle année, on doit être dans les années 90, hein. J'essaie de voir, je ne sais pas, bon. Donc c'est dans les années 90, Jean-Pierre Metsch, Les Greniers du Silence. Alors, on va commencer peut-être par le lire en hoc, et ensuite je lirai la traduction.
D'accord.
Alors, Camille.
Lucie Menge perd toutes ses balades, une estrade, que s'accabe, toujours la médiche. Dès là, l'Euclède de la Pidoule. À la bête la carrière, qui traverse le flume, qui traverse le thème, de ses fringues fluides, qui perd jamais polluades. Trace la parédrice des boules, et d'une ceste esclafate, premières images incardades, s'ouvre las rétines nobles de la cintres del village. Aco es la cadelle soubege, tres lujone, nostut de lume, joue las balances d'acieres de las immenjades grises.
Pour toute sortie des dimanches, une route qui s'achève, toujours la même, au-delà de la grille des peupliers. Enfin, la route qui traverse le fleuve, qui traverse le temps, de ses bouts fluides, à jamais polluée. À travers le pare-brise de poussière et d'insectes écrasés, première image inscrite sur les rétines neuves de l'accès au village. C'est l'iris jaune, éclair jaune, né du limon, sous les passerelles d'acier, des week-ends gris.
Qu'est-ce à qui l'oustau des paillettes, sulfade de blau, al recen del couste, de las viñas bastianas, un lumbre constitue sur bravenas las figuras de septembre. L'automne agrana la danza de las cavernas sus nou rebercage del soleil en castres de caudes. Paredu del rabar trenca, puts a sec la raube cride sous-suit del geste del passat. Tins la prime de lourdes, la brinse de espace, las grilles del temps, joue la simgueyes benicide, asio palanis, persiste del grand de sigre, uia casopire per quadre caligne et u esparat.
Maison en ruine. Sulfaté de bleu, aux confins des coteaux et des vignes d'absence, où l'ombre recompose dans un tas de gravier les figuiers de septembre. L'automne balaie la danse des cravennes, aux lanières de vent, sur les hauts crépits du soleil enchâssés de galets. Petit mur du lavoir cassé, puis asséché, la roue grince sans fin aux gestes du passé. Dans l'avril du jardin, la glycine a épousé les grillages du temps. Sous les sureaux, bassines, acier galvanisé, percées par mille grains d'avoine, une casserole abreuvoir pour quatre poules et un moineau. Alors là, nous sommes dans la description donc, de cette maison. Je pense que c'est d'ailleurs la maison dans laquelle il est allé se réfugier après l'explosion d'AZF. Et qui est une maison typique, en définitive, de nos campagnes. J'ai bien connu, moi, ça, ces petites maisons où il y avait une casserole à breuvoir pour quatre poules et un moineau. Hein. Donc, on voit là de quoi il s'agit, avec le vent d'automne, c'est au crépi du soleil, enchâssé de galets, c'est-à-dire, c'est comme ça que l'on construisait dans l'Occitanie ancienne. C'est une maison d'ancienne, une maison de 19e, fin 19e, début 20e, cette maison donc est en ruine et qui pour lui évoque bien sûr beaucoup de choses. Voilà, nous continuons.
De la sourdide del village trace las rins masquines de negre frisouillal que bulben l'abeille esmara del estre et la smoussouille. Nibuldade del silenci las prides primades jauben. Pour tau clabat, fresque repentie d'encre, béroï égoïsme, cadène frisouse, tibades del pagadouse, entre la bête argande de la prinière. La passagède des boustres amaroudes acquis à las pélèdes abandonne per la toute ausseille. Sonque l'escrade instringade, l'arbre grise del ballet de la birade à l'istélum.
À la sortie du village, derrière les haies mesquines de troènes noires que survole l'abeille égarée dans le soir, et le moucheron, impalpable nuée du silence, les propriétés privées aboient. Portail fermé, fraîchement repeint de sombre, grillage d'égoïsme, chaîne furieuse, tirée par des chiens lourds rendus furieux, entre les sapins argentés et les pruniers du Japon défleuris. La promenade du soir, muselée, jusqu'aux chapelles abandonnées, n'a d'horizon que la route étroite, l'herbe grise des fossés et le demi-tour aux étoiles. Voilà, donc on est toujours dans ce paysage, hein, de ce petit village. Voilà. Alors il se plaint évidemment de ce que il y a ces portails fermés, fraîchement repeints de sombre grillage d'égoïsme. Chaîne furieuse, il dit même tiré par les chiens lourds, rendu furieux entre eux. Voilà. Donc il y a ce regard peut-être sur ce qu'est devenue la campagne, et qui est devenue donc des propriétés privées, souvent des résidences secondaires, qui est un monde très différent, évidemment, de ce qu'était le monde rural de cette époque-là. Et donc c'est un monde qui est fermé, ce qu'il dit, hein, les portails sont fermés, on met des chaînes, on met des chiens, on protège, et il parle d'égoïsme. Voilà. Mmh. Alors que lui, certainement, avait connu ça quand c'était une terre de partage, où les gens de ferme en ferme se rendaient service, etc., où il y avait une solidarité, une vie collective. Voilà ce qu'il veut dire, Jean-Pierre Maître. J'avais ces très beaux mots.
Pile de maloun rebdoun, brangue bijoun, fruste mourtau, délas des ben. Cap al cambière murau, souligne des carrelages ébertes, las boulidodes blanches, tranque sus teultu hostile. Lus trajectorias circularias e atisadas. Al ras de las bordes lung e baixan, las lengues violentas de las catelas, lens lus oreilles de Toulus. Uye galigne petite pied rouge, lus neus de poules del camigran, que seren per jamais tabos, calus prutagno cuntagnalos.
Piliers de briques rondes, granges vides, poutres mortes, ailes de vent, vers les pigeonniers murés, soulignés de céramique verte, les volées blanches des colombes cassent sur les tuiles hostiles leur trajectoire circulaire et obstinée. Près des fermes longues et basses, les langues violettes des iris lèchent les soleils des talus. Une poule naine, égarée, picore les nids de poule qu'on ne bouchera jamais qu'aux prochaines cantonales. Voilà. Donc on voit aussi qu'il a l'humour, hein, cette forme d'humour.
J'ai aussi l'impression que qu'il est un peu plus joyeux quand même.
Oui. Oui. Tout à fait.
La glaise esclabade à claque triste, caminade longue à las estreignes del camage. Derrière la glaise, lus tauses nulles, neicais lubois, éternel des peines, ucroutes.
L'église est fermée, à clé triste. On a loué le presbytère à un étranger au chômage. Derrière l'église, les ifs, odeur forte du buis, éternelle d'indifférence, une croix. Alors là, tu disais que c'était un peu plus joyeux, mais là, bon, il montre un paysage pour lui qui était une désolation. C'est-à-dire une église qui ne sert plus d'église, qui est fermée, à clé triste, il dit, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer. Le propre d'une église, c'est d'être ouverte. Et là, elle est fermée, celle-là. Et puis le presbytère, qui c'est qui habite le presbytère? Un étranger. Et un étranger au chômage.
Une petite plage blave, Netège et la grave. L'escale cadus barancun trank. D'air aban, l'escalaren permet al silence.
Une petite pluie bleue nettoiera les graviers. l'échelle à deux barreaux cassés. On ne grimpe plus au silence. Donc des vers très... Encore, c'est un peu plus... Quand effectivement, on voit que la langue d'oc met plus de mots pour dire ça.
Hein, oui.
Voilà, plus riche. Et il y a des sonorités quand même qui... Il n'y a plus de musique dans la langue d'oc que dans la langue française, dans ces deux petits poèmes. Voilà. Et je pense que c'est ça qui l'intéressait aussi, la musique de la langue.
Oui. Parce que même si c'est deux langues différentes, les traductions ne pourront jamais faire parfaitement même chose.
Bien sûr. Oui. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ça... qu'on commence par l'occitan.
Oui.
Voilà. Parce que c'est dans cette langue qu'il a conçu le poème. Voilà. Et alors là, on va lire un poème. Tu vas lire un poème, Camille, qui est dédié à sa fille Lorraine, que nous saluons, et pour lequel nous dédions cette émission. Voilà. Elle ne verra, Lorraine, que son père, Jean-Pierre Medge, est toujours vivant dans le monde de la poésie. Père Lorraine.
Sous trèpes, des fustes clabades, sac et lousse perdide, des moufes et des lalicon, la moule danse, la figue, la guigue, des sons bintres irrégulats, entraîne et roubilles, peyrère loulinègre, de la moule, c'est des messies, encar, sus lou talen, inexpérience. Nessi la mentange, Brian de brasse, estadie sus la alar, que sun ben délugage, dinousseu des sugues, ambé lou sol, las estillos.
À Lorraine, donc. Sur son trépied de bois, sec, craquelé, verdi de mousse humide, la meule danse la gigue de son ventre irrégulier. Engrenage rouillé, buvant des huiles noires, elle use son grain éternel sur des couteaux d'inexpérience. Naïveté d'enfant, des brindilles rougies, écrasées sur la fonte de l'âtre, vont dans un ciel de suie rejoindre leur grande sœur, les étoiles.
Joule celle gris, qu'est-ce grise l'aigle, qui est carat, fa, d'aigueiros. Daigelos.
Sous le ciel gris, eau grise qui au carreau fait petit bruit. Voilà, donc c'est un poème donc très 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 court. C'est une image, une espèce de fulgurance d'image qui lui arrive comme ça. Hein, un ciel gris, une eau grise et qui au carreau fait de petit bruit. Il y a quelque chose d'un peu mélancolique dans ce petit texte.
Malas estreigne peios, farde des moutes escures, plage des dentelles, le mirail pesuc, sus estafu, jouse des pals, de la rose, ulieu. Cabia des fers, acabe drumi, joue cartoon, demi livre tankos.
Mâle, chiffon étrange, habit de mousse obscure, pluie de dentelle, le miroir lourd s'est effacé sous la poussière des roses. Un lit, cage de fer, achève de dormir sous des cartons emplie de livres, à jamais refermée. Ah, je pense qu'il parle là de sa maison de campagne, certainement, où il y avait alors ces lits cages de fer. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, effectivement, la plupart des lits étaient
en fer.
Voilà. Les bois du lit n'existaient pas, c'était du fer, parce que tout simplement, à l'époque, c'était bien meilleur marché que le bois.
C'est vrai ?
Eh oui.
Ah oui, je savais pas.
Solidarius et salvage, miraclasamen, escalbille, dins lulims, de la memoria, florissen inquereleo, din dei sera, lus calugne del cumbe. Las greu recen, la nuit, de la cadencia, de las estrellas. Branco de brugne nuda, las rosignols, lus rosignols de l'infantes, joui la lua, douce et triste. Bolsfoult. Empurades las termes paradouilles de la nuit. Desgredes. Joue las luternes.
Solitaire et sauvage, miraculeusement épargnés dans les limites de la mémoire, fleurissent encore dans de rares champs les cognassiers du cadastre. Les grillons scient la nuit à la cadence des étoiles, branches de pruniers nus, le rossignol de mon enfance, sous la lune douce et triste, vol fou, poudreux brisé, les termes papillons de nuit, déréglés sous les lanternes. Alors il a fait là dans ce poème, il a fait comme des calligrammes, c'est-à-dire que il a joué avec la place des lettres dans l'espace, de manière, par exemple, les vols fous, hein, vols, false. On voit des oiseaux qui volent, voilà. Il a fait ceci, bien entendu, qui ne passe pas à la radio. On continue.
Des loutrouilles esquives de la moudre forest, arpa la nostre ophégame, se suspende illusion. De las brancas, homme pantage, des faces desnusades sous la hanque de l'habitus. Pas cette future desreille et signature del présent, fradignade sous notre pote. Là où celle triste de notre boucles erre des travées des bousques grises, train de troc sous ce gabille. Que cal trinca assio las tranguillas de la souvenencia. Et la souvenencia.
C'est ça.
Oui, c'est le souvenir.
Oui, c'est ça. J'ai eu un petit doute quand je l'ai lu.
Dans les sentes abruptes de la maigre forêt, griffant notre essoufflement, on suspend l'illusion aux branches. On rêve de ceintures dénouées à la taille des habitudes. Passé, futur désenchanté et signature du présent, des éraflures sur nos lèvres. L'oiseau triste de nos bouches erre à travers des bosquets gris où 30 troncs forment une cage. Il faut casser ici les brindilles du souvenir. Alors, je pense que tu ne abonderas dans mon sens, mais on est là dans l'occitan languedocien.
Oui.
C'est ça ? C'est pas du gascon, hein ?
C'est bien. C'est depuis le début, oui, c'est voilà, du languedocien.
C'est du languedocien. Voilà, oui. C'est normal parce qu'il était effectivement de cette région-là, quoi, dans la région de Toulouse, etc. Nous, on parle le languedocien.
Oui. D'ailleurs, Ça me perturbe des fois parce que le de, il dit del.
Ah oui.
Et ça se dit aussi en espagnol del. Oui. Donc du coup, ça me perturbe à chaque fois. Je me dis, ah, c'est l'espagnol. Ben non.
Oui. Oui. Et c'est vrai que
quelqu'un comme Eric Frasch, que tu connais peut-être, hein, le chanteur qui chante en occitan, en catalan, en espagnol et en français, bien sûr. Je lui demande souvent comment il fait pour ne pas un peu s'en mêler les pédales, quoi. Hein.
Oui.
D'autant plus qu'en occitan, il chante de l'occitan langue d'Occitan, mais aussi de l'occitan gascon. Voilà. Et il jongle là comme ça avec toutes ces langues. Par exemple, je trouve que souvent passer de l'espagnol à l'occitan, quelquefois, c'est vrai, tu viens de le dire, ça perturbe.
Mmh.
Et moi, ça me perturbe pas mal. Parce qu'on aurait tendance à, lorsqu'on ne sait pas un mot, etc., à le remplacer. Au moment espagnol.
Non, mais voilà. C'est vrai. Des fois, ça marche. Hein.
Oui, 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 oui.
Pas tout le temps, mais des fois, ça marche.
Langue romane.
Oui.
Voilà. Alors, on va continuer avec Jean-Pierre Medge.
Pergue brissade, abalide de Neyre, cap des flous à Liloc, geste des bravat, dins la balade. La carède brave, à pète sus rab, de las calcides, sus azeio imuls, sus défaise. D'espère ban et tourtigue. Pègue aquiu la nègue, que boutin, que tournembe dimenge. Loupieille, la vieille cabuse, sus id défourmat, dins sa baissère de silence. Relouge hostile, cabentio, las aroglais coupon, las grages tristes del remembros.
Timon brisé, horizon de brouillard, plus de fleurs au lilas, plus de bleuets dans les fossés. La charrette bleue a cassé ses deux roues de lune aux bardanes. Ses essieux s'immobilisent sous des fagots d'attente vaines et d'orties. Voilà venir la nuit. On reviendra dimanche. La vieille plonge ses doigts déformés dans ses vaisselles de silence. Horloge, hostile cadence. Les heures glaives sectionnent le glaïeul triste des souvenirs. Toujours cette nostalgie. Puis cette charrette bleue. Ces charrettes bleues, il y en avait partout. Lorsqu'on va à la Couvertoirade, par exemple, ils en ont laissé une à l'entrée de la ville, hein, de la Couvertoirade. Hein. Et c'était symbolique de cette époque. Où il y avait effectivement ces fameuses charrettes bleues. Est-ce que quelqu'un de ta génération, est-ce que tu as des souvenirs comme ça? Ou déjà c'est effacé, ça?
Oui, je sais que j'en vois parce qu'on l'a dans le jardin en décor. Ça, c'est quand même joli.
Oui, oui, oui.
Mais j'avoue que je ne l'ai jamais...
D'accord.
Mais je me souviens que mon grand-père, il me racontait qu'il allait tous les samedis, il me semble, au village pour faire le marché avec cette charrette.
Oui, j'ai connu ça moi aussi dans mon enfance.
C'est pas la même époque, ça a vite évolué.
Oui.
Quantunt ser acab silvet, dins dedans, dins bintans. Quant lu ser tirna de fresque, persus, perdesus las ga... Perdesus lus laurier, que ferme des soumis, segut, sous à quel pumper en perdejan. Qu'est-ce d'aban ours, qu'est-ce trop tard, qu'est d'émour del passage, ni le silence, nous mei le dor, ni la tournes, ni mei pourtant, sont que la grise coulou de las causes. Cum nous autres perturem, et le jour, on tournarem d'aban la
d'aban la ficelle tambande, sol nostre sourire forestier, agataram mouri sous la rose.
Quand tout sera fini, Sylvette, dans 10 ans, dans 20 ans, quand le soir fraîchira, s'élevant des lauriers, nous rêverons, assis sur ce palier, disant, est-il trop tôt, est-il trop tard, que reste-t-il du cher passé, ni le silence, ni les regrets, ni les retours, ni les départs, que la grise couleur des choses. Comme les autres, on s'en ira. Et le jour où l'on reviendra, seuls nos sourires étrangers regarderont mourir les roses. Alors, il y a beaucoup de nostalgie, de mélancolie.
Oui.
Et alors, il dit... Quand tout sera fini, Sylvette, il s'adresse donc à Sylvette. Et Sylvette, c'est sa femme. Voilà. Il s'adresse là à sa femme. Voilà, après... merci beaucoup, Camille.
Avec plaisir.
Donc, Jean-Pierre Medge, hein, nous avons eu une pensée là pour lui, Jean-Pierre Medge. Je crois que c'est notre devoir aussi de faire vivre ces poètes. Bon,
oui.
D'autant plus que c'est un poète... qui a écrit aussi en occitan, et qu'il est normal qu'en Radio Occitanie, on va s'écouter un poète qui écrit dans les deux langues. Voilà.
Oui.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, Camille. Merci à toi. Voilà.
Alors, nous allons continuer par un hommage aussi à un autre poète qui a disparu en 2023, et qui était aussi un poète de la région. Vous savez, la région d'Occitanie, elle est riche hein, en créateurs. Hein. C'est un poète qui s'appelle Alain Lacouchy. Et Alain Lacouchy, bon, c'est un poète avec lequel j'ai eu une longue amitié, une grande amitié. Et là aussi, on va dédier ce moment à sa fille Aurélie, qui a beaucoup suivi l'œuvre de son père et qui était vraiment la lumière de son père. Complètement. Et alors il se trouve que moi j'ai une fille aussi qui s'appelle Aurélie, qui est à peu près le même âge. Et donc c'est le fait de pouvoir parler de nos filles, là, Aurélie, ça nous a souvent beaucoup rapprochés. Quoi. On se sentait vraiment une espèce de fraternité dans la paternité de nos filles respectives qu'on adorait, bien entendu qu'on adore. Alors Alain Lacouchy, il nous a quittés dans le 3 février 2023, c'est quand même très récent. Et c'était un artiste humble et pluriel, c'était aussi un homme révolté, mais plein d'humour. J'ai rarement vu quelqu'un, quoi qu'il se passe, je me souviens de l'avoir appelé, alors que moi-même j'avais des difficultés sur le plan professionnel, etc. C'était une période assez difficile. Et d'entrée, il me disait « halte au feu
ah, ».« Halte
au feu », ça voulait dire « bon ». On arrête les soucis, il ne faut plus penser aux soucis, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la lecture, tout le reste, ça n'a aucune importance, en définitive. Bon, excellente philosophie, très difficile quand même à mettre en marche, hein.
Oui,
mais lui, c'est sa philosophie, il a vécu comme ça. Alors, il est l'auteur d'une cinquantaine de recueils de poésie, il écrivait aussi des nouvelles. Et on peut lire Alain Lacouchy dans les anthologies, et puis aussi dans de nombreuses revues, dont des revues qui ont disparu maintenant. Mais il était aussi plasticien et illustrateur. Il adorait dessiner. Et il avait d'ailleurs un style excessivement moderne, hein, presque cubiste. Oui. Et ses encres, alors il faisait beaucoup d'encre, et il ornait, avec ces encres-là, il ornait bien entendu ses propres écrits, mais aussi il illustrait bien des écrivains. Alors, ces encres, elles ont aussi fait l'objet d'expositions, au même titre d'ailleurs que ses photographies, parce qu'il était aussi photographe. Et puis, Alain Lacouchy, c'était quelqu'un qui était excessivement dynamique, et il a dirigé aussi une équipe de théâtre, voilà. Donc, c'est la revue Encre Vive, qui avait été fondée par Michel Cosem en 1960, et qui continue donc depuis 1960, cette revue, c'est rare, hein, des revues de poésie qui est comme ça depuis 1960, et continue, nous sommes en 2025, hein, ça fait quand même 65 ans de revue sans interruption. Voilà, a été reprise au décès de Michel Cosem, qui est également décédé même année qu'Alain Lacouchy, hein, 2023. Elle a été reprise par Éric Chassefière, que nous saluons ici, avec un comité de rédaction dont j'ai l'honneur d'appartenir, et qui a évidemment tenu à rendre hommage à Alain Lacouchy. Alors je vais vous lire les textes d'Alain Lacouchy, mais je vous invite à vous procurer cette revue. C'est le 540e numéro d'Encre Vive. Tu te rends compte ? 540e numéro d'Encre Vive, donc qui s'intitule spécial Alain Lacouchy, un poète de combat. Les textes ont été rassemblés par notre ami Jean-Louis Clarac, également poète, et avec les contributions de Laurent Bourdelas, Éric Chassefière, Jean-Louis Clarac, Daniel Cor, Françoise Cuxac, qui est l'épouse de Jean-Louis Clarac, Bernard Fournier, Colette Gibelin, Aurélie Lacouchy, donc sa fille, Gilles Lade et Gérard Moutet. Voilà, je vais vous lire maintenant, pour finir, je vais vous lire « Trapeau définitif », ce sont des inédits de Alain Lacouchy. Voilà, il y a une série de textes que je vais lire. Chaque texte a un numéro et je lirai également le numéro de rapport. 1. Une fenêtre entrebâillée. La jeune fille délie ses rêves. Ils ont d'amples vertiges et des délires d'orage. Combien de baisers en bourgeon dans cette mélancolie. 2. Soir de juin, pianissimo, halluciné de ses étoiles, soir de juin aux ondées lasses, quand se délient tes cheveux, et minuit n'habite nulle part, tu me dérobes l'horizon. 3. Demain, je serai peut-être rouille, au bout de mon âge et fermé d'ennui. Il est plus tard et je n'ai plus faim, de 16 heures jusqu'au 100. Il est trop tard. Fermé à double tour, j'ai des électrodes plantées en tête. Au rythme râpeux d'un tambour, je suis vulnérable jusqu'à la nostalgie. À mes blessures, une horloge sans reflet dure. Alors, on est là aussi dans des poèmes assez durs, hein, des poèmes d'hommes qui ont vécu et qui se retournent un peu sur leur vécu, mais aussi qui regardent devant eux et qui s'aperçoivent qu'effectivement il n'y a plus beaucoup d'espace devant eux. Voilà. Mais c'est ça aussi la poésie, pouvoir dire aussi cette angoisse humaine, et qui est tout à fait, comment dirais-je, compréhensible et même souhaitable. Hein.
Mais pareil, sur le dernier poème qu'on a lu, je trouvais quand même que c'était... il n'avait pas peur de la mort. Enfin, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur de la mort. Il accueille quand même les bras ouverts.
Oui.
Enfin, c'est quand même noble.
Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est-à-dire que, oui, il y a une fatalité, mais c'est pas une fatalité, il n'y a pas douloureuse. Il y a, oui, quelque chose d'excessivement métaphysique dans la réflexion. C'est pas uniquement une panique.
Donc c'est avoir ce regard aussi, peut-être ce regard métaphysique hein, sur la vie, et qui est l'apanage quand même aussi des grands auteurs, des grands poètes.
Oui.
Je souscris totalement à ce que tu viens de dire. 4. Sirènes d'alarme à leur nature morte. Morte de peur et les pleutres t'en serrent, uniformes comme on marche au pas, marche dans les couloirs et claquement. Et s'il fallait mourir debout, voilà. Je crois que c'est ce qu'il a dit, hein. Et s'il fallait mourir debout, voilà. En fait, il va mourir debout, c'est ce qu'il a dit, parce que bon, il a la volonté pour ça, il a la distance dont tu parles, il a ce courage en définitive,
oui. Hein,
cet extraordinaire courage de pouvoir affronter ça en un instant, debout, c'est-à-dire avec le maximum de dignité possible que lui laisse la nature humaine. 5. Fillette du Soudan est une pierre au milieu du courant. Ses yeux sans regard sont fixés de mouches rouges et, à ses tripes boursouflées, sa faim est des bruits cassants. Sur elle pèse, lourde mort, le regard sec d'un vautour. Alors là, il s'agit d'un aspect d'Alain Lacouchy dont on n'a pas parlé. C'était un homme engagé. Engagé dans ce soutien à la misère de l'humanité. Voilà. Et là, ben, il était ému. Il y avait des guerres au Soudan à cette époque-là. Enfin, il y en a toujours, malheureusement, je crois. Oui. Dont on ne parle pas d'ailleurs, hein. Il y a eu 384 000 morts il y a peu de temps, hein, là dans cette région, dont on ne parle pas, curieusement. Hein. Et lui, Alain Lacouchy, eh bien, ça le révoltait, ça. Voilà. Et il écrivait là-dessus. Il écrivait, il faisait des œuvres plastiques également, sur ça, sur cette souffrance. C'était un homme révolté, ce que j'ai dit au début, hein, c'était cette révolte. Il y avait une grande révolte chez lui sur la détresse et surtout sur le fait que les hommes, effectivement, n'arrivent pas à cette fraternité qu'il y a toujours. Voilà, cette fillette du Soudan qui est victime d'une guerre, absurde comme toutes les guerres. 6. Je m'arrête. Des néons lacèrent un homme furtif aux yeux globuleux, perdus. Des silhouettes d'ombre froide achèvent la nuit, sans nuit. Des rats, goutte à goutte, m'attachent, dévorent les carcasses des pendus. Je suis mort. Image terrifiante, mais en même temps, bon, c'est le coucher, c'est-à-dire, il rigolait tout le temps. Il avait ce talent de pouvoir rire de tout, même s'il riait jaune. Il vous entraînait dans cette distance qu'il fallait avoir vis-à-vis des événements, c'est-à-dire les surmonter, comme il me disait, halte au feu, tout ça, il faut arrêter tout ça, c'est pas important. Voilà, regarde, il va y avoir un joli coucher de soleil, et tout ça, ça s'emporte tout le reste. Voilà. Il avait cet humour et cette force en lui d'avoir cette dérision aussi de lui-même. Qui donne effectivement beaucoup d'aplomb, hein, beaucoup de personnalité. 7. Il ne sert à rien de parler à un arc-en-ciel qui n'est pas mort. Il se croit éternel. Quand le marchand de couleurs lui a jeté ses oiseaux, j'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai tiré sur chacun de ses fils, le bleu, le vert, l'indigo. Nu, j'ai écouté la rosée éclore. Voilà. Donc, il y a cet humour. Tout ce que je disais sur cette distance et cette fait de vouloir traiter quand même le quotidien avec toujours cette lueur d'optimisme.
D'espoir.
D'espoir, voilà. D'espérance. 8. Un passant sans rien dire est un ciel tout gris. Inachevé de solitude. Sur un mur blanc, il a tracé ces mots sans importance. Je t'aime à la folie. il a des mots à pleine bouche pour fleurir son néant. Voilà. Voilà. On retrouve donc cette... Il souffle un peu le chaud et le froid quand même, hein, la Couchy, dans ce texte, qui est rigolo, mais en même temps, pour fleurir son néant, bon, voilà, il ramène les choses à une
réalité,
à une dimension, qui est quand même une dimension tragique, mais il le fait avec beaucoup d'humour et avec cette dérision de lui-même. 9. Son dernier jour était une gare déserte. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'y avait que quelques moutons noirs, perdus dans son souvenir, et une silhouette, en fuite dans son avenir. Il s'abandonna à l'absence où tout meurt. 10. Une pluie glacée coupe son ennui. L'absence s'égoutte d'un silence dans l'engourdissement du soir. L'écho d'une fuite résonne d'un amour sans teint, entaillé d'un dernier soupir. 11. Le ciel est mort. Sauf des vautours maudits et blafards, bâtards, à grands coups de traits noirs. Le silence saigne, les yeux fermés. La vie crie tout ce qu'elle a de sève. Voilà, de Alain Lacouchy. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je rappelle le titre de ce recueil spécial Alain Lacouchy, édition Encre Vive. C'est le 540e numéro d'Encre Vive. Un poète de combat. Texte rassemblé par Jean-Louis Clarac, et ce numéro vous coûtera 6,60 € que vous pouvez vous procurer auprès de Éric Chassefière, 232 avenue du Maréchal Juin, 34-110 à Frontignan, ou tout simplement en écrivant à Encre au pluriel et en minuscule un point vive, V-I-V-E-S, Encre Vive 34, encre.vive 34, @gmail.com. Vous aurez, bien entendu, tous les renseignements sur les ouvrages dont nous avons parlé dans cette émission sur le site lespoètes.site. Lespoètes.site. Voilà. Merci Camille.
Avec plaisir.
Ça a été un plaisir donc d'entendre notre ami Jean-Pierre Medge dans sa langue occitane, langue d'Occitane. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.